Frédéric Debomy, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans cette interview culture sur Divergence FM. Alors, vous êtes l'auteur côté scénario avec Benoît Guillaume, qui est lui aux illustrations, de la bande dessinée qui s'intitule, alors là, vous êtes vraiment pas sympa, Aung San Suu Kyi, Rohingya et extrémiste bouddhiste, qui est paru récemment aux éditions Masso. Alors, cet ouvrage est loin d'être votre premier, puisque vous êtes l'auteur d'une dizaine d'autres bandes dessinées, dont Birmanie, la peur est une habitude, ou encore Birmanie, ça c'était chez Kiasma en 2013. Fragment d'une réalité, ça c'était chez Kambourakis 2016, Kambourakis qu'on adore chez Divergence FM. Vous êtes aussi l'un des membres fondateurs de l'association Kiasma. Et enfin, vous avez été responsable de l'association Info Birmanie et le directeur artistique du film international du film des droits de l'homme de Paris. Quel parcours, bravo monsieur. En tout cas, il est assez facile, rien qu'à l'évocation de cette très courte et très lapidaire biographie, de déceler dans ce parcours un fil rouge au milieu d'autres assurément. Fil rouge qui est aussi le cœur de cette bande dessinée documentaire et dont nous parlons aujourd'hui ensemble, à savoir la Birmanie. Expliquez-nous donc qu'est-ce qui vous lie à ce pays et comment est né avec Benoît Guillaume ce projet de bande dessinée.
Alors, ce qui me lie à ce pays, c'est il y a une dimension plus personnelle aujourd'hui. J'ai eu une compagne birmane, j'ai eu une relation forte avec une plus jeune birmane que j'ai considérée comme ma petite sœur. Mais à l'origine, en fait, c'est la lecture en 2001 d'un livre qui s'appelait « Birmanie totalitaire ». Avec total de totalitaire en lettres majuscules. Ouais. Et ce livre m'apprenait à l'époque que le premier soutien à l'époque de financier de la dictature birmane, c'était la première entreprise française, donc Total. Et j'apprenais aussi qu'il y avait l'une des pires dictatures de la planète, une dictature militaire, et face à cette dictature, des gens qui se mobilisaient et qui semblaient mériter d'être soutenus. Et donc assez rapidement, j'ai monté un premier projet, et puis de fil en aiguille, ça a pris une dimension dans ma vie toujours renouvelée.
Oui.
Et c'est vrai que la dernière manifestation de cette relation de long cours et qui passe par des occupations différentes, ce sont les livres que l'on fait maintenant avec Benoît Guillaume, qui sont comme des photographies
ouais.
de la réalité politique du pays et de sa réalité plus large à un moment donné.
Alors c'est exactement ça, pour faire le pitch, on est obligé un petit peu, sans tout dévoiler non plus, entre guillemets, de votre bande dessinée. On vous voit, Benoît Guillaume et vous, quadriller la Birmanie à la rencontre de toutes celles et ceux qui seraient à même de vous parler du pourquoi de cette haine que certains bouddhistes extrémistes birmans ont à l'encontre des musulmans, les Rohingyas. Comment vous est venue cette idée de vous mettre vous-même en scène? Est-ce que le projet était de nous faire vivre de l'intérieur cette sorte d'enquête documentaire?
Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, ça fait des années que je travaille sur la question birmane, comme je l'ai fait aussi de façon directe, pas comme auteur, mais comme personne engagée en dirigeant une association. Et donc, c'est un univers qui m'est familier et je voulais partager ça avec le lecteur. Donc, c'est une façon assez simple. Dans les bouquins qu'on fait avec Benoît Guillaume, le lecteur est amené à suivre les personnages. Les personnages, c'est nous deux, c'est Benoît et moi.
Ouais.
Et puis on emmène le lecteur en fait dans les rencontres qu'on fait, dans les déplacements qu'on fait, à la rencontre de la réalité birmane.
Je dirais qu'il y a deux paradoxes majeurs que vous cherchez à éclaircir. Le premier serait, pour faire simple, comment un moine, en réalité des moines, bouddhistes de surcroît, avec l'imaginaire qui va, enfin le fantasme autour du bouddhisme qu'on a tous, peut-il faire preuve de tant de violence et d'extrémisme? Et le second paradoxe qui serait, qui est en réalité Aung San Suu Kyi, arrivé à la tête du pays en 2016, prix Nobel de la paix dans les années 90, et qui en quelque sorte laisse faire, mais peut-être... a-t-elle une vision plus complexe du problème et se donne-t-elle le temps qu'il laisse faire cette barbarie liée à l'extrémisme religieux? Est-ce que vous partagez cette lecture?
Alors, s'agissant des moines bouddhistes et du fait qu'ils puissent être extrémistes, ça surprend effectivement souvent en Occident, mais parce qu'on a une vision du bouddhisme assez qui relève de l'image d'Épinal ici, en fait. Hein, c'est un peu le Père Noël.
Oui.
On s'imagine que c'est une religion voire une spiritualité seulement de paix. Enfin, il y a, bon, c'est un petit peu angélique tout ça.
Tout à fait.
Et ensuite, s'agissant d'Aung San Suu Kyi, ce qu'il faut comprendre en fait sur la situation en Birmanie, c'est que Aung San Suu Kyi est à la tête de l'État birman, mais en réalité, c'est toujours l'armée qui a le pouvoir. Mm-hmm. Donc on a une armée qui, à un moment donné, a laissé un espace politique à la dissidente de toujours qui était Aung San Suu Kyi. Elle s'est emparée de cet espace politique, mais cet espace politique est restreint. Le vrai pouvoir en Birmanie, c'est toujours l'armée.
Ouais.
Une fois qu'on a compris ça, on peut interroger la manière dont Aung San Suu Kyi utilise ce pouvoir restreint mais réel qu'elle a. On peut même émettre parfois les critiques les plus dures. Mais il faut pas aller trop vite. Il faut d'abord comprendre le contexte. C'est l'armée.
Ouais.
C'est d'abord l'armée. Les violences contre le nettoyage ethnique des Rohingyas, c'est l'armée birmane qui l'a voulu. C'est l'armée birmane qui l'a mise en œuvre.
Mmh.
Ensuite, effectivement, ce que fait ou ce que ne fait pas Aung San Suu Kyi, c'est l'objet de discussions et de discussions qui doivent être très sérieuses, puisqu'on parle de violation des droits de l'homme d'une ampleur qui est quand même importante.
Tout à fait, oui. Alors, en tant que lectrice, j'ai compris très vite que cela n'aurait, en somme, aucune sorte d'intérêt de creuser plus en profondeur le personnage de ce moine barbare et intégriste qui s'appelle Wiratu, mais que c'est bel et bien un mécanisme, en fait, au-delà de ce fait-là, de ce personnage-là, que vous cherchiez à comprendre.
Je suis assez content que vous disiez ça, parce qu'effectivement, il y a une espèce de fascination qui m'ennuie. Il y a eu beaucoup de choses sur Wiratu partout sur la planète. Il y a même eu un long métrage documentaire qui lui a été consacré. Et on sent une fascination. Une fascination pour la figure du mal, une fascination pour l'idée que cette figure du mal, incroyable, c'est un moine bouddhiste. Mais en fait, c'est un extrémiste comme les autres. Il n'est pas très intéressant en soi, en fait, Wiratu. C'est pas un type intelligent. C'est un malade. Bon, il y en a des types comme ça. La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un type aussi médiocre à tous égards peut tout d'un coup jouer un tel rôle dans la vie politique d'un pays? Qu'est-ce qui fait que des tas de gens sont prêts à le suivre, écoutent ce qu'il dit et avalent ce qu'il dit? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'il y a dans la société birmane qui permet l'émergence d'un personnage comme ça? C'est plutôt de ça qu'on parle avec Benoît que de cette histoire de moine bouddhiste extrémiste, incroyable.
Oui, et d'autant que comprendre ce rouage permet d'en comprendre bien d'autres. C'est un problème beaucoup plus, qui dépasse les frontières de la Birmanie, en fait. Enfin, cette fascination du pire et cette fascination à véhiculer ce que nous avons de pire, finalement, nous empêche de nous poser d'autres questions. Je dois dire que je n'ignorais pas le problème birman et le problème qu'il y a autour des Rohingyas. Par contre, ce qui m'a plus étonné et dont finalement j'ignorais l'existence, c'est cette fuite au Bangladesh et comment, en fait, c'est mal vu par les Birmans. Enfin, vraiment, enfin, partir pour le Bangladesh, on comprend dans votre bande dessinée que c'est et on peut pas faire pire, quoi. Et du coup, est-ce que ça vous a donné envie de vous y rendre et d'aller voir du coup de ce côté-là aussi?
Non, on avait envisagé avec Benoît dans un bouquin en 2015 d'aller en Arakan, là où en fait les Rohingyas vivent et vivaient pour bon nombre d'entre eux qui sont maintenant partis. Mais finalement, on n'avait pas pu entreprendre ce qu'on voulait. Non, on n'a pas été au Bangladesh. Peut-être qu'on le fera un jour. Par contre, il est bon d'en parler, parce que les Rohingyas qui sont au Bangladesh aujourd'hui sont pour beaucoup sur une île submersible. Là, ils sont 15 000 en quarantaine suite à l'épidémie du Covid-19. Ils sont dans une situation qui est difficile. Et ceux qui sont en Birmanie sont dans une situation qui est pire encore, j'ai envie de dire, parce que quand on est Rohingya, il est quand même meilleur d'être au Bangladesh qu'en Birmanie.
Ouais.
Et en Birmanie aujourd'hui, la pandémie sert de prétexte pour opprimer encore davantage ces gens qui sont véritablement maudits, j'ai envie de dire. Alors, c'est un vocabulaire comme ça qui a un côté religieux, mais ce sont des gens qui n'ont rien fait à personne. À un moment donné, il y a certes un groupe armé Rohingya qui s'est constitué et dont on peut discuter les actions, mais enfin, s'il est né, c'est parce que le problème était déjà largement là, que cette population était persécutée, et surtout, cette population n'est pas comptable des attaques commises par ce groupe armé contre des postes de police birman. Mais cette population subit encore et encore, en Birmanie et ailleurs, une persécution multiforme, continue. C'est absolument, absolument terrifiant.
Alors, une dernière question qui va concerner plus la forme que le fond. Cette fois, comment est-ce que vous avez travaillé ? Les illustrations de Benoît Guillaume sont magnifiques et, à mon sens, restituent notamment des lumières incroyables. Est-ce que vous avez travaillé en voyageant d'abord ou est-ce que vous avez travaillé à votre retour ? Et puis, est-ce que c'était un système de j'écris, je soumets mon écrit et tu dessines ensuite ou comment ça s'est passé ?
Alors les rôles sont partagés dans le sens où je suis le scénariste et il est le dessinateur, mais enfin on se parle, on échange.
Bien sûr.
On a fait deux livres comme ça qui rendent compte de l'actualité de la Birmanie à un moment donné, qui peuvent se lire séparément, mais c'est intéressant aussi de lire l'un après l'autre, parce qu'on voit ce qui a bougé, ce qui n'a pas bougé. Le bouquin qu'on a fait en 2015, on est parti et on a commencé à faire les pages sur place. Donc entre deux déplacements, deux rencontres, quand j'avais du temps, je reprenais les notes d'une rencontre précédente, ou d'un événement auquel on avait assisté, et puis je transformais ça en scénario, Benoît lisait, me faisait une remarque éventuellement, et puis ensuite, quand on était d'accord, il attaquait la page. Et donc on est revenu avec entre 30 et 40 pages, moins de 40, sur à peu près 150 pages pour le bouquin de 2015. Pour le bouquin qu'on a fait cette année, là, celui qui vient de sortir, c'est différent. On a vraiment fait le voyage entièrement. Lui griffonnait, moi je prenais des notes, j'enregistrais aussi, il me semble. Et puis après, pour le coup, on a vraiment travaillé la restitution au retour.
D'accord.
Donc on a fait ça de façon différente. C'est vrai que travailler la restitution au retour, ça permet sans doute de mieux articuler les choses, de mieux les travailler. Le pari du premier bouquin, c'était en faisant sur place, on fait le livre, on commence à faire le livre à un moment où on baigne dans l'atmosphère particulière d'une rencontre, d'un pays, et peut-être que du coup ça passera, malgré nous, d'une certaine manière, mieux dans les pages. Bon, finalement, on a fait autrement avec le deuxième livre, et je pense que le résultat est tout aussi vivant et tout aussi juste.
C'est exact. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti à la lecture de cette bande dessinée. Nous n'avons malheureusement que 10 minutes pour cette interview culture. Frédéric de Baumy, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que votre bande dessinée, vous êtes co-auteur avec Benoît Guillaume côté illustration. Je rappelle que votre bande dessinée passionnante et documentaire s'intitule Aung San Suu Kyi, Rohingya et extrémiste bouddhiste, qu'elle est parue aux éditions Masso. Diriez-vous, mais je crois que j'ai déjà la réponse, que vous en avez fini avec la Birmanie ou se peut-il que vous continuez à produire des œuvres sur ce sujet ?
Ah, j'ai pensé plusieurs fois en fait que j'en avais fini avec la Birmanie dans ma vie. Là, je ne fais plus de pronostics. C'est peut-être là que ça va finir d'ailleurs, mais en tout cas, ce sera intéressant qu'avec Benoît, on puisse y retourner pour continuer à montrer l'évolution de ce pays. Mais il faut pouvoir faire financer ça, et c'est pas forcément le sujet le plus évident à vendre à des éditeurs ou à des revues.
Je comprends. Merci infiniment.
Merci.